Nous allons reprendre, si vous voulez bien, avec Pierre Nora, qui est un témoin et un acteur de cette année 1965-1966. Je suis trop loin du micro. Je rappellerai simplement deux éléments de sa biographie pour ne pas occuper toute l'heure. Le premier, je l'ai déjà évoqué dans mon cours, c'est cette collection de poches archives que Pierre Nora a créée en 1964, si je ne me trompe, j'ai bien noté, oui. 1964, chez Julliard, par l'intermédiaire de Christian Bourgois. Ce qui est pour moi exactement au moment de l'envol de ce poche que j'appelais, que Sartre appelle le poche intellectuel. Sartre lui-même, dans son article, parle du poche intellectuel et qui correspond à ce que j'ai décrit comme au fond une seconde génération du livre de poche. Et Pierre Nora l'a donc créé en 1964 avec... Vous avez vu qu'en 1966, on en était à Soboul, qui était le 19e volume, donc en 3 ans, à peu près 6 volumes par an, j'imagine, et de très beaux volumes. Je rappellerai que le premier, c'était « Les Français ont la parole », cahier de doléances des États généraux, présenté par Pierre Goubert. Second volume, très original, L'œil de Moscou à Paris, de Jules Humbert Droz, édité avec l'aide de Dany Kriegel. Et j'ai montré tout à l'heure dans mon cours 2 volumes importants, Auschwitz de Léon Poliakov, qui est le numéro 4 de cette collection. Et je crois que l'autre que j'ai montré, c'était L'œil de Moscou, justement, le numéro 2. Donc, acteur important dans ce moment de la culture, de la jeunesse, de la nouvelle culture. Et puis, en 1965, Pierre Nora devient éditeur chez Gallimard, à l'automne de 1965, donc dans cette année dont nous suivons la trace, et les premiers volumes qui sortent sous sa direction dans la collection Bibliothèque des sciences humaines au printemps de 1966, il y en a 4, 5. Je vais vous les rappeler, les cinq premiers titres de cette Bibliothèque des sciences humaines. On pourra peut-être en parler plus longtemps dans un moment. Ernesto De Martino, La Terre du Remords, donc un livre d'ethnologie. Elias Canetti, Masse et Puissance.
C'était Ethnologie et Langage chez les Dogons de Geneviève Calame-Griol.
C'est le numéro 5.
Ah, je les avais fait tous ensemble, alors je ne me souviens plus.
Mais selon les aspects d'imprimer,
d'accord.
Alors, je donne dans l'ordre où on les trouve. Hein. Elias Canetti, Masse et Puissance.
C'est parce qu'Ernesto De Martino, il était déjà en route dans l'espèce humaine. Oui, voilà.
Michel Foucault, bien sûr, voilà. Dont on parlera, Les mots et les choses. Émile Benveniste, Les problèmes de la linguistique générale. Et Geneviève Calame-Griol, La parole chez les Dogons. Ce sont les 5 titres groupés au printemps de 1966. Qui font donc de vous un acteur important de ce moment des sciences humaines et de cette année. Alors, je pense qu'on va dialoguer, mais je vous donne la parole pour commencer, et puis on reprendra comme pourra par la suite.
Je vous remercie, et je ne saurais vous dire à quel point je suis impressionné par... votre public, votre audience. On m'avait annoncé un séminaire, et dans ces mêmes années 1966, Je me souviens des séminaires du Collège de France auxquels je participais, ceux précisément de, un peu après 1966, de Georges Duby ou de Raymond Aron ou de Michel Foucault, et il y avait entre 25 et 40 personnes. Et donc, c'est ce public auquel je m'attendais. Et je suis vraiment d'autant plus gêné, je dirais, que... par la force des choses, ce que vous m'avez demandé est un témoignage personnel d'acteur engagé dans ce mouvement d'édition des sciences humaines des années 65-66, qui correspond effectivement au moment où je suis entré chez Gallimard. Et de ce fait, je vais être obligé de parler de moi, ce dont je m'excuse un peu. Alors, en effet, c'est à ce moment-là que je suis entré chez Gallimard sur le succès de cette petite collection archives qui participait à l'essor de ce livre de poche, mais qui s'en différenciait beaucoup dans la mesure où c'était la première formule du livre de poche fabriqué. C'est-à-dire non pas la reproduction de la Chartreuse de Parme, mais un livre qu'on faisait pour devenir un livre de poche et qui consistait dans la présentation par des historiens patentés de documents inédits ou d'archives ou peu publics et qui mettaient en quelque sorte les bibliothèques ou les archives dans la poche. En livre de poche. Et cela supposait une sorte de rapport neuf, je dirais, au passé et aux documents, puisque jusqu'alors, il y avait essentiellement, disons, une grande histoire qui était représentée au sommet par les thèses, et puis des livres qu'on appelait beaucoup des livres de vulgarisation. Alors, l'idée de profiter de la formule du poche pour mettre directement dans les présentoirs, ce qui sommeillait dans les archives, j'avais bataillé pour que la collection s'appelle Archives, ce qui à l'époque sonnait neuf, et prenait précisément le premier, celui des cahiers des États généraux de Goubert. Il n'y avait pas d'édition des cahiers des États généraux de 89. Il y avait quelques volumes édités, mais il n'y avait pas d'édition. Et Pierre Goubert, qui était l'auteur du livre qui va révolutionner à beaucoup d'égards la sensibilité historienne et faire pénétrer, je dirais, la nouvelle histoire qui, dans le grand public. C'est précisément en 1966 quand il a publié Louis XIV et 20 millions de Français. Livre qui avait été publié déjà 3 ou 4 ans avant dans une collection club, mais que François Furet et Denis Richet avaient repris dans une collection qu'ils voulaient lancer chez Fayard, sous l'égide précisément de Guichelaire, dont vous avez évoqué le nom, et qui s'appelait L'Histoire sans frontières. Et c'est à ce moment-là que Louis XIV et 20 millions de Français a été, je crois, le premier très grand succès de l'histoire de type annal. Et il suffit pour le comprendre de rappeler, mais ça y est, je suis parti, ça m'embête un peu, mais de la première phrase, il me semble, de ce livre. Et en 1660, l'espoir de vie était de 27 ans. Comme le cimetière était au centre du village, la mort était au centre de la vie. Cette simple phrase... qui supposait une très longue étude de plusieurs années d'histoire quantitative qu'il avait poursuivie à Beauvais, dans le Beauvaisis, et qui consistait à l'époque à faire des fiches comme ça, où dans les archives, on marquait dans les archives de paroisse la date de naissance, le baptême, le mariage éventuellement et la mort, à la main, avec sa femme qui travaillait généralement avec vous. Mais... une fois qu'on avait travaillé 10 ans à faire ces milliers de chiffres, on les passait dans ce qui était à l'époque une nouveauté absolue dans l'utilisation scientifique, l'ordinateur, et qui, en 5 minutes, vous donnait le résultat de plusieurs années de recherche, d'histoire quantitative, et permettait de dire où on se mariait, à quel âge on décédait, quels étaient les effets des épidémies, à quelle distance de son propre village on se mariait ou on s'éloignait, et donc permettait de jeter un coup de seuil, de sonde sur les anonymes, les petits, les sans-nom de l'histoire, ceux qui faisaient, comme aurait dit Michelet dans une formule que l'école des Annales avait certainement repris, faisaient parler les silences de l'histoire. Eh bien, ce livre, rien que le titre, Louis XIV et 20 millions de Français, suffisait à renverser complètement la donne. C'était plus Versailles qui parlait, c'était le villageois, c'était l'anonyme, c'était le massif et c'était les petits. Alors, je dis cela parce que c'est lui à qui j'avais évidemment demandé le livre de le premier, les cahiers des états généraux, qui en sont devenus une petite histoire classique. Alors, je n'insisterai pas sur la collection archive, mais c'est sur, je dirais, le succès de cette collection qu'effectivement j'ai été approché par Claude Gallimard, lequel lui-même venait depuis quelques années seulement de prendre le pouvoir chez Gallimard, puisque c'était son cousin, Michel, qui avait été destiné a succédé à Gaston Gallimard, le fondateur, mais qui avait été, vous vous en souvenez tous, tué dans l'accident de voiture de Camus. Et c'est après que Claude Gallimard a commencé vraiment à prendre les rênes de la maison et à sentir obscurément que la grande période de la littérature que son père avait pu porter commençait à connaître une forme de déclin et qu'il y avait d'autres choses qui étaient en train de naître, dont il percevait mal la texture, mais qu'il n'était pas chez Gallimard, ni Lacan, dont les écrits sont de 66, ni Braudel, ni Lévi-Strauss, ni tous ces gens dont on parlait et qui avaient un certain et qui n'étaient pas du tout représentés dans sa maison. C'est donc sur ce succès qu'il m'a, ou plutôt c'est sur le succès d'Archives, avec l'idée de me demander de faire une collection d'histoires chez lui. Alors, je n'étais pas destiné à devenir éditeur. J'étais professeur universitaire, jeune. Je faisais en principe une thèse que j'ai jamais terminée, justement à cause de ça, certainement. Et j'avais pas eu un grand intérêt à faire une collection d'histoire chez lui. J'étais assistant à la Sorbonne et à Sciences Po, et j'avais écrit un petit livre qui s'appelait Les Français d'Algérie, pendant ou au lendemain de la guerre d'Algérie, et donc j'avais fait cette collection chez, comme vous le rappeliez, Julliard. Et puis Julliard est mort d'ailleurs, et la maison a commencé à s'effriter, la maison Julliard. C'est sur ces entrefaites donc que Gallimard, qui ne faisait guère de sciences humaines, et c'est là où je vais en venir, m'a demandé d'abord de faire cette collection d'histoires, et puis, sur mon hésitation à m'engager dans quelque chose pourquoi je n'étais pas tellement fait, je voulais faire l'université, les essayistes, et mon vrai problème personnel à l'époque, c'était de savoir si je ne faisais que de l'université ou si je faisais, dans la suite des Français d'Algérie, des essais. Ce n'était pas du tout de devenir éditeur. Mais, je dirais, progressivement, Claude Gallimard a fait monter les enchères dans des rapports personnels et a fini par me dire précisément que tout ce secteur que j'avais l'air de sentir, lui, était totalement étranger. Je me souviens encore de sa phrase à l'époque, « Mon père, ça a été la littérature ». Moi, je voudrais que ce soit ce dont on est en train de parler, qui ne portait pas dans son esprit vraiment, qu'il appelait des documents plutôt que des sciences humaines ou des idées. Alors, c'est l'habit qui a fait le moine, et au début, j'ai mis le petit doigt dans l'engrenage. Je suis parti pour 2 ans en me disant c'est quand même très tentant. Il me demandait de l'aider à créer tout un domaine qu'on appelait à l'époque non-fiction par rapport à la littérature. Et c'était extraordinairement tentant, évidemment. Et du coup, j'avais pris mes précautions et j'ai souvent rappelé que dès que je suis entré, Queneau m'avait dit « Méfiez-vous, les Gallimards sont dévorateurs, ils vont vous manger complètement. Gardez quelque chose. Vous êtes dans l'université, restez-y. » J'étais maître assistant à Sciences Po. Je lui ai dit « Mais vous ?» Et il m'a dit « Moi, je suis resté au prix Goncourt. Moi, je suis prix Goncourt. » Et c'est déjà beaucoup comme levier. Mais quand je suis entré, j'ai souvent aussi rappelé une autre anecdote qui était que j'étais, pour tout dire, pas très bien vu par une maison qui était d'essence littéraire et qui s'était construite à beaucoup d'égards contre l'université, contre le savoir, contre la pédanterie. Et je rappelle souvent la fameuse anecdote de Aragon. Beaucoup d'entre vous connaissent la maison Gallimard et connaissent l'escalier. Et lui, je monte et il descend, il m'aperçoit, il tire son chapeau. C'était l'époque où il était veuf, où il était déjà un peu répandu dans une sorte d'exhibitionnisme légèrement homosexuel. Et sort son chapeau comme ça de caballero et me dit « Monsieur note de bas de page, je présume ». Et ça en disait très long sur l'accueil. Et j'avoue que tout ce secteur qu'évoquait il y a un instant Antoine et ses premiers livres, qui malgré tout ont été suivis de Raymond Aron, Les étapes de la pensée sociologique, depuis suivis de Le Goff, Duby, etc. Et tout ce que l'on sait dans la bibliothèque des sciences humaines, plus dans la bibliothèque des histoires. Est resté un secteur mal perçu dans la maison. Et Claude Gallimard, dont je parlais, chaque fois que Jouandeau ou Léris ou Le Clésio signaient dans la petite salle leurs services de presse et leurs livres, venaient les saluer, restaient un moment, se dérangeaient, les invitaient. Et quand c'était Foucault ou Aron, c'était les amis de Pierre, si j'ose dire. C'était pas quelqu'un qui était reconnu comme tel. Alors, mon travail, si vous en parlez dans la maison, qu'est-ce que j'avais trouvé quand je suis entré chez Gallimard ? Parce qu'en fin de compte, l'intérêt, c'était effectivement de planter le drapeau des sciences humaines sur l'Annapurna Gallimard que je souhaitais faire à l'entrée, avec le sentiment que Gallimard était une maison extraordinairement littéraire, mais que pour signaler à quel point elle était absente au siècle, rien n'avait paru sur la guerre d'Algérie, par exemple. Alors que tout était chez Lindon, au Seuil, que moi-même j'avais fait ce petit livre sur l'Algérie chez Julliard, c'est comme si la guerre d'Algérie avait été inconnue de Gallimard tout entier. Et absente aux sciences humaines. Un de mes premiers premières visites, quand j'ai été sollicité par Gallimard, c'était d'aller voir le Lévi-Strauss, que je connaissais un peu pour avoir assisté à ses séminaires et pour être allé le saluer souvent et lui demander de venir, évidemment, chez Gallimard, m'aider. Et il m'avait fait comprendre que jamais il ne publierait chez Gallimard. À la fin des fins, je lui ai demandé un peu pourquoi. Il m'a dit « pour vous, tout ce que vous voulez, avec vous, mais rien pour Gallimard ». Il a fini par me raconter cette anecdote qu'il avait envoyé le Triste Tropique chez Gallimard et que Brice Parrain, qui était son vieux copain comme ça et qu'il connaissait, lui avait répondu que les voyages n'intéressaient pas tellement les Français. Alors qu'il s'était découragé un petit peu, et plutôt que pas découragé, il lui avait envoyé l'Anthropologie structurale 1, pour la Bibliothèque des idées, et que là, il avait reçu une autre lettre de Brice Parrain. Bon, tout ça étant, tout le monde est mort, on peut le raconter, qui lui avait dit que, comme toujours, que l'article était inégal, qu'il y en avait de bons, il y en avait de moins bons, qu'il faudrait peut-être en choisir certains, que d'ailleurs, ce n'était pas très bon d'entrer chez un éditeur comme Gallimard sur un recueil d'articles, mais qu'il fallait un vrai livre, et qu'au total, il lui paraissait que la pensée n'était pas toujours mûre. Je cite. Alors, ce sont des phrases qui n'ont pas dû beaucoup plaire à Lévi-Strauss, d'autant qu'il m'avait raconté lui-même avoir été amené par Kaiwa, après sa thèse sur les structures de la parenté, dans le grand bureau, comme ça, il avait accompagné Kaiwa, pour je ne sais pas quoi, que Gaston Gallimard est entré dans le bureau, et que, comme toujours, Gaston, dès qu'il voyait quelqu'un, qui que ce soit, « Monsieur, qu'est-ce que vous allez écrire pour nous ?» Et que Lévi-Strauss, pour la NRF, j'entends, et que Lévi-Strauss lui avait dit « Je pourrais faire à la rigueur une chronique culinaire. » Et du coup, Gaston avait cru qu'on se moquait de lui, évidemment. C'est dire l'étrangeté absolue, si vous voulez, de la maison aux préoccupations de ce type. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'il y avait, si vous voulez, d'abord autour de moi, sur le marché à l'époque. Je crois que c'est le plus intéressant à dire rapidement. Mais il y avait un certain nombre de collections, effectivement, qui avaient été lancées et qui signalaient, quand on y pense aujourd'hui, une forte structuration du champ intellectuel et idéologique à travers l'édition. Il y avait, cette année-là même, le Sens commun de Bourdieu, qui commençait aux éditions de Minuit, très active dans le domaine des sciences humaines, puisqu'il y avait également la collection Arguments que faisait ce grec qui s'appelait Kostas Axelos, avec des gens comme Duvigneau, et qui publiait Marcuse, qui publiait Lukács, qui publiait Bataille ou Blanchot. Et il y avait le début de la collection critique que Georges Bataille ne faisait plus vraiment directement, mais qui était encore et déjà l'héritage de Georges Bataille de la collection critique que faisait
Jean Piel,
bien sûr, Jean Piel.
C'est absolument. Lui qui l'a commencé.
Après la mort de Bataille. Bon, et il y avait donc cette collection critique. Donc, il y avait beaucoup de choses aux éditions de Minuit. Si on va de l'autre côté, c'est-à-dire chez Kalman-Lévy, où Raymond Aron était le maître, il y avait cette collection, Liberté de l'esprit, qui publiait, par exemple, Galbraith ou Rissmann, des anglo-saxons, et où Raymond Aron lui-même publiait ses propres essais. Il y avait chez Plon la collection Recherche en sciences humaines que dirigeait Éric de Dampierre et qui publiait essentiellement les traductions de Max Weber, avec beaucoup de difficultés. Mais c'était quand même extrêmement impressionnant et important de voir publier Max Weber. Il y avait Maspero, d'autre part, qui était l'ancêtre de la découverte, si j'ose dire, François Maspero, qui avait été lui-même extrêmement engagé dans la guerre d'Algérie, et qui publiait Verdun, dont Mythe et pensée chez les Grecs date de 1966, justement, qui publiait Althusser, bien sûr, dont Lire le Capital paraît cette même année, fin 65, début 66. Et puis, au Seuil, il y avait Lacan, qui, justement, cette année 66, publie les écrits. Il y avait Todorov, qui publiait Théorie de la littérature à ce moment-là. Et puis, il y avait certaines petites collections. D'abord, il y avait Petite Planète, dont vous parliez, qui était la petite collection de poche, justement, un peu chic, qui correspondait à une autre collection de poche qui était très attrayante et qui était Les écrivains de toujours. Où Claude Roy avait fait un Hugo, ou Domnac avait fait un Barès, ou enfin vraiment cette espèce de très jolie petite collection qui faisait connaître là aussi les écrivains à un public très répandu. Puis il y avait une collection qui était lancée juste dans ces années 65-66 et qui s'appelait Société, qui était une collection de poches, demi-poches, et que faisait un journaliste économiste marxiste qui s'appelait Robert Fossart, F-O-S-S-A-E-R-T, qui travaillait comme un peu journaliste primitif au ministère des Finances, avec Bernard Cazes, et qui était la plume du plan français, disons dire, au ministère de l'économie et des finances. Je crois que, globalement, pour compléter du point de vue intellectuel, c'est l'année des cahiers pour l'analyse à l'École normale supérieure, qui publiait, je dirais, un peu le nec plus ultra de la recherche anthropologico-analytique en France. Et c'était à peu près ça le paysage à l'intérieur duquel j'avais à construire, en quelque sorte, un secteur ou un domaine. Alors, en gros, mon apport et mon seul apport est dans l'édition chez Gallimard. Donc, chez Gallimard, ça a été de reprendre cette collection qui végétait, mais qui avait été la collection intellectuelle et qui s'appelait Bibliothèque des idées, que vous connaissez tous, avec ce demi-cercle Bibliothèque des idées, et où avaient paru L'être et le néant, La philologie de la perception, qu'avait en principe autrefois dirigé Gruithuisen, dont Malraux avait dit c'est l'homme le plus intelligent que j'ai jamais vu, mais ça ne se voyait pas à travers ce qu'il publiait, parce qu'il n'a publié que des choses paramarxistes de troisième ordre, et la collection Bibliothèque des idées avait fini par s'endormir complètement, puisque quand j'étais entré, les deux derniers titres parus depuis deux ou trois ans au moins étaient La structure absolue de Abellio et un livre sur Molière de quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelait Jacques Guicharneau et qui est très largement responsable indirectement de ma vie et de ma carrière, parce que quand il était normalien et qu'il préparait l'agrégation, à l'époque on faisait des stages dans les lycées, il était venu au lycée Carnot où j'étais, et il m'avait, disons, repéré et invité à l'École normale, où il m'avait dit, c'est là que, voilà, et il m'avait même invité, parce qu'il venait de publier, par l'intermédiaire de Queneau, un petit recueil de nouvelles existentialistes chez Gallimard, qui s'appelait Entre chien et loup, et il y avait à l'époque des grands cocktails chez Gallimard. Cocktail historique, en quelque sorte, parce que par rapport à Grasset, par rapport à toutes les autres éditions, une fois par an, au mois de juin, dans le jardin de Gallimard, on recevait. Et c'était une sorte de grande fiesta parisienne où on voyait aussi bien Malraux, Brigitte Bardot, etc. etc. Et Guicharneau, invité là, m'avait traîné. Invité quand je devais pas voir encore passer le bac, donc c'était l'année du bac. Et là, tous les auteurs, littéralement, ils vivaient, quoi. Enfin, ils existaient, tous. Il y avait Louis-René Desforêts, dont j'étais en train de lire Les Mendiants, il y avait Queneau, il y avait Caillois, il y avait Sartre, et tout le monde. Et donc, sur un garçon de 16 ans, la tête lui tourne complètement, il se dit, bon ben, c'est là qu'il faut vivre et mourir, si j'ose dire. Alors, c'est à peu près là que j'ai vécu et probablement que je mourrai, puisque ça fait maintenant 46 ans, cette année, que je m'incruste dans la maison. Alors, comment j'y me suis pris ? Eh bien, j'ai pensé qu'il fallait s'appuyer sur cette couverture de la Bibliothèque des idées et qu'il fallait créer une couverture analogue pour en créant des collections autour. Ou plus exactement, j'avais pensé au départ, faire ce qu'on appelait aux États-Unis un paperback, et faire entre le livre de poche dont vous parliez et le livre noble une sorte de paperback classique destiné aux étudiants. Et c'est d'ailleurs dans cette perspective que j'étais allé voir Raymond Aron pour lui demander de publier le cours que le CDU, enfin que les fascicules bleus de la Sorbonne publiaient à ce moment-là, et qui étaient ces cours sur les grands sociologues auxquels j'avais assisté, et que je lui voulais qu'il reprenne, qu'on publie, et l'on publie sous le titre « Les étapes de la pensée sociologique ». C'était même le type même du paperback. Quand j'ai voulu présenter à Claude Gallimard ce projet de paperback, François Herval, dont vous avez parlé, et qui était un sympathique et gros pépère un peu paresseux, parce que c'est pas lui même qui a créé l'idée, c'est Gallimard qui l'a créé, mais il cherchait quelqu'un pour la diriger. Et Claude Gallimard avait demandé à Françoise Giroux. Et François Giroux avait recommandé Herval, qui était l'homme qui supervisait dans l'Express la culture et les livres. Je m'en souviens d'autant bien que j'étais à ce moment-là, que je remplissais la copie, parce qu'Herval était extrêmement paresseux, il habitait juste à côté de chez moi, j'allais chez lui, je prenais « Oh, servez-vous, mon vieux, servez-vous !» Et donc je prenais les bouquins, dans l'Express à l'époque, on ne signait pas. Et donc, beaucoup de ces livres de ces années 64, 65, 66, dans l'Express, je dois être de ceux qui ont noirci la copie, protégé un peu par François Giroux et aidé par François Herval, qui, quand je suis arrivé chez Gallimard après, n'a pas vu d'un tellement bon œil mon arrivée, parce qu'il était Monsieur Idée. Il avait gardé le... Alors, je me souviens que... Il est allé voir. Il n'a pas voulu que je fasse ce paperback en disant mais ça va faire une concurrence à Idée, qu'il fasse autre chose. Alors comme par ailleurs j'étais un petit jeune à qui on ne voulait pas donner la bibliothèque des idées parce que c'était quand même la noble et que Lambrix, Georges Lambrix, il y avait une collection littéraire avait quand même dit à Claude Gallimard écoutez on ne sait pas ce qu'il va faire, c'est quand même la collection. Phénoménologie de l'esprit, Merleau-Ponty, Sartre. Alors j'étais acculé, si j'ose dire, à faire autre chose, et donc à faire une collection à côté que j'ai appelée Bibliothèque des sciences humaines, en lui faisant prendre le sigle, et en demandant à Pontalis, qui venait d'entrer dans la maison pour faire une collection de psychanalyse, de prendre la même couverture ou le même type, avec l'idée de créer une collection Bibliothèque des idées, Bibliothèque des sciences humaines, Connaissance de l'inconscient, de créer un sigle, une collection qui deviendrait, dans mon esprit, aussi forte que la collection dite blanche, et que personne n'appelait blanche, parce qu'à l'époque, c'était simplement la collection Gallimard. Pontalis a fait ça, et je me souviens très bien d'ailleurs, qui m'avait reproché de faire une collection qui s'appelait Bibliothèque des sciences humaines à l'époque, en me disant « ça coiffe trop large, qu'est-ce que tu vas mettre là-dedans ? Tout ! Mais alors quoi ? L'anthropologie, l'ethnologie ?» Bon, d'autant que parmi les collections qui existaient, et venons-y peut-être rapidement, chez Gallimard quand j'arrivais, il y avait quand même des collections éparses de sciences humaines, mais qui étaient toutes ou à l'abandon ou créées par des écrivains à qui on avait demandé de s'en occuper et qui ne s'en occupaient pas, comme Léris, par exemple, qui était censé diriger l'espèce humaine, magnifique collection à laquelle il s'attachait, mais de loin, parce que quand même il écrivait ses propres livres et ce n'était pas un éditeur au sens premier. C'est lui qui avait probablement programmé Ernesto de Martino, et qui m'a dit, prenez-le, si j'ose dire, mettez-le dans votre collection. Et qui était ravi d'arrêter l'espèce humaine et que quelqu'un s'en occupe à l'intérieur d'une collection plus vaste qui serait les bibliothèques sciences humaines. Il y avait, pour tout dire, il y avait eu Georges Dumézil qui avait publié ses premiers livres, tous ses premiers livres, qui était un ami de Brice Parrain, et c'est comme ça que Brice Parrain avait pris ses livres. Et puis, comme ça ne se vendait pas, comme personne s'y intéressait, comme personne les lisait, comme il n'avait pas d'éditeur, il était parti de chez Gallimard et il était allé chez Payot pour faire la religion romaine archaïque. Et voilà. Et alors, il y avait la géographie humaine dont plus personne ne s'occupait et qui était Georges Desfontaines, qui était même mort. Il y avait des collections comme les 30 journées qui ont fait la France, mais aussi qui peinaient un peu parce que c'était Gérard Walter qui l'avait créé, mais la maison s'était brouillée avec lui depuis 1962. Et c'était Robert Gallimard, le cousin de Claude, qui l'a supervisé un petit peu, mais dès que je suis arrivé, il m'a béni, en quelque sorte, en me disant « tu vas m'aider à la faire ». Et c'est comme ça que, très vite, il y a eu en particulier le Dimanche de Bouvines, de grande mémoire, si j'ose dire, dans cette collection, et que la collection a un peu repris une régularité. Voilà. Et alors, il y avait quelques collections comme ça, complètement dispersées à l'intérieur de ce panorama. Et au fond, c'est cela. Il y avait la collection Les Essais, dont plus personne ne s'occupait non plus. Une petite collection bleue magnifique qui avait connu le Baudelaire de Sartre, par exemple, ou les essais de Raymond Aron. Mais là aussi... il n'y avait personne pour vraiment s'en occuper, rendre la chose un peu unitaire. Je crois que les deux premiers livres que j'y ai fait mettre en reprenant cette collection, c'était « Sur la révolution de Hannah Arendt », la traduction, et c'était « Baudrillard, le système des objets », qui est le premier livre de Baudrillard, qui était sa thèse « Troisième cycle », qui m'avait tapé littéralement dans l'œil quand je l'avais lu. On était devenus très amis jusqu'à ce qu'il écrive ce livre « Oublier Foucault », qui nous a un petit peu éloignés, Baudrillard ayant eu d'ailleurs la grande délicatesse personnelle de s'en aller tout seul sur la pointe des pieds, si j'ose dire, pour Mathilde ne pas me faire d'ennui avec Foucault. Et alors, effectivement, il y a eu cette rencontre qui a été très forte, qui a duré jusqu'à sa mort avec Foucault, avec les mots et les choses qui, quand je l'ai touché en manuscrit, s'appelait « La prose du monde », sans faire attention que c'était un titre que Merleau-Ponty prévoyait de publier. Et c'est à cette occasion, d'ailleurs, que Foucault m'avait dit « Mais Merleau-Ponty, c'est mon héros. C'est comme ça que j'aimerais faire des cours, c'est comme ça que j'aimerais écrire, c'est lui que je voudrais être, c'est pas autre chose, c'est Merleau-Ponty. » Et donc, en effet, parmi ses tout premiers livres, il m'a fait la joie de, et je crois que c'est un commun accord que je lui avais demandé de plus ou moins de sous-titrer les mots et les choses comme archéologie des sciences humaines, une archéologie des sciences humaines qui typifiait extraordinairement la collection que je voulais essayer de lancer à ce moment-là. Voilà, écoutez, alors, je crois que ce qu'il faudrait quand même peut-être dire, parce qu'à l'intérieur de votre évocation de l'année 66, il me semble que ça peut exister, c'est que est né un peu à ce moment-là, dans l'édition des sciences humaines, ce qu'on pourrait appeler le directeur de collection, qui n'existait pas tellement avant chez les éditeurs. Je n'en verrai pas de grands exemples. Et il me semble que l'identification de ce directeur de collection, ce serait, à mon sens, Mallory, Jean Mallory. C'est-à-dire quelqu'un qui fait naître des livres, quelqu'un qui n'est pas un éditeur ou pas seulement un éditeur, qui est fortement enraciné dans une ou plusieurs disciplines. Après tout, Maloris, c'était la géographie au départ, mais entre une géographie même dite humaine et terre humaine, il y a le même mot de passage, terre humaine par rapport à géographie humaine, mais il y a un monde entre la géographie humaine de Desfontaines, de Vidal-Lablache, et évidemment cette extraordinaire collection qu'avait précisément lancé Lévi-Strauss, mais aussi lui-même, car le premier livre avec celui de Lévi-Strauss dans Terre humaine, c'est Les Rois de Tulé de Mallory lui-même. Alors Mallory est certainement une des images d'incarnation très forte d'une collection, d'un nom, d'un homme, parce que sa collection Terre humaine est extraordinairement typée et fortement enracinée dans une formule et dans une sensibilité et dans un rôle très actif de l'éditeur et du directeur de collection. Alors, du fait que j'ai été chez Gallimard, du fait de ce que, après la Bibliothèque des sciences humaines, on n'en a pas parlé, mais 2 ans après, je faisais la Bibliothèque des histoires, que je voulais compléter cette... que j'avais été engagé pour donner du prestige à la maison, mais pas de l'argent, et que donc il fallait que je trouve un moyen, en projetant mes sciences humaines, de faire gagner de l'argent à la maison, parce que sinon je savais que c'était... Il faut toujours faire gagner de l'argent dans une maison commerciale où on est, sans quoi on est très mal vu. Et donc, j'avais fait cette collection dite témoin, qui était censée reprendre le flambeau d'une vieille collection qui c'était chez Gallimard, qui s'appelait Problèmes et documents, qui était complètement à l'abandon, personne ne s'en occupait, et où certains livres quand même très importants avaient paru, comme le livre d'André Violis, Indochine SOS, préfacé par Malraux, dans les années 1931-32 par exemple, mais où personne vraiment ne s'occupait de cette collection, et où je pensais qu'il n'y avait plus rien à en faire sous cette forme-là, mais qu'en revanche, peut-être l'époque était-elle à celle d'une forme d'engagement à travers l'édition, une collection témoin était assez large pour accueillir des sensibilités très différentes, des types d'expériences humaines et des livres qui dépasseraient le journalisme de loin, et où j'ai la chance... Ça a été une grande aventure de publier parmi les tout premiers livres L'aveu de Arthur Nandon, qui était évidemment une grande aventure éditoriale et intellectuelle et idéologique, puisque c'est un des livres qui a été les plus actifs dans la lutte contre le totalitarisme. Alors, je crois que le directeur de collection, c'est un beau sujet, si j'ose dire, de travail, dans ces années-là, qui vous concernent, que je n'aurais probablement pas été le seul. Michel-Claude Jallard, que vous parliez, est quelqu'un qui a lancé vraiment ce 10-18 complètement. Et donc, il y a eu la naissance d'une sorte de personnage éditorial, intermédiaire entre l'auteur et l'éditeur, prenant une certaine autonomie par rapport à l'éditeur lui-même, qui fait partie du visage intellectuel de l'époque. Je n'ose pas aller plus loin, vous vouliez qu'on parle un peu.
Oui, on va. Moi, j'avais envie de vous interroger sur des sujets dont on n'a jamais parlé entre nous par ailleurs, et donc parce que c'était jamais venu dans la conversation. Dans votre récit là, de votre arrivée chez Gallimard, je me demandais comment Brice Parrain, qui était un petit peu la référence, quand même dans ce qui était.
Écoutez, moi j'ai eu une déplorable impression. J'ai eu une déplorable impression de Brice Parrain.
Parce que c'était lui qui.
Oui, c'était lui.
C'était lui
qui
occupait ce terrain.
Oui.
Ou qui ne l'occupait pas, je ne sais pas.
Si, c'est un très brave homme. Et qui en effet se sentait l'incarnation de l'existentialisme et qui a fait cette extraordinaire prestation à la fin d'un film de Godard. Ça dure 20 minutes, je ne sais plus comment s'appelle le film, et où il fait le vieux, le Socrate, quoi. Alors, il aurait voulu me socratiser un peu quand je suis arrivé, et j'étais terriblement imperméable. D'abord parce que quelqu'un qui avait à son actif éditorial d'avoir refusé Lévi-Strauss et refusé Foucault, puisque l'histoire de la folie a été refusée par Brice Parrain, et pour des raisons qu'on peut très bien comprendre, d'ailleurs, en 1962, et que je l'ai récupéré après.
Oui. Entre-temps, il avait été publié chez Plomb.
Entre-temps, il était publié chez Plomb par Philippe Ariès dans son histoire, sa collection qui s'appelait Mentalité, l'histoire des mentalités.
Puis en 18.
Puis
en poche.
Puis en poche, mais alors là, ça a été une histoire éditoriale effroyable, puisqu'il en a voulu à mort à Bourgois de ne pas l'avoir prévenu de cette édition 10-18 qu'il a voulu retirer du commerce. Bref, c'est comme ça que j'ai récupéré ensuite l'histoire de la folie. Mais, alors, je peux comprendre que quelqu'un qui était totalement sartrisé, existentialisé, n'ait pas compris dans les deux cas le basculement intellectuel et total que sur la base de ce qui lui paraissait complètement ésotérique, marginal, étranger à la grande culture vécue du siècle, pouvait représenter Lévi-Strauss et les Nambiquara. Et comment on pouvait faire tourner l'ensemble de la culture autour de choses qui lui paraissaient quand même de l'ethnologie de terrain. Et du côté de Foucault, quelque chose qui lui apparaissait, je me souviens très bien de lui en avoir parlé avec Brice Parrain, au fond, ni une histoire de la folie, parce que ce n'était pas une histoire de la folie, l'histoire de la folie, si j'ose dire. Ce n'est pas l'histoire des fous. C'était tout à fait autre chose. Et qu'au fond, ça montre bien l'étrangeté, si vous voulez, que ce type de culture, au fond, science humaine, pouvait représenter par rapport au sartrisme que Brice Parrain incarnait complètement.
Mais il l'avait, avec Caillois, accepté les mots et les choses sous un autre titre, déjà. Il n'avait pas refusé les mots et les choses. Il avait accepté.
C'était pas lui. Parce que c'était plutôt Lambrix.
Lambrix.
Oui, mais il avait accepté comme ça du bout des lèvres parce que Foucault avait écrit dans la NRF et qu'il avait publié
Roussel chez Lambrix.
C'est comme ça qu'il avait connu. Et puis moi, je connaissais Foucault, par ailleurs, à cause d'archives, de la petite collection Archives, où, après l'histoire de la folie, j'avais fait donc Archives en 64, et j'avais demandé à Foucault, que j'avais connu par l'intermédiaire de Furet à la Bibliothèque nationale, et surtout, j'avais été très enthousiasmé par l'histoire de la folie, et je lui avais, au moment où ça avait paru, écrit. Et on lui écrivait peut-être pas tellement, Furet nous a présenté à la BN, au moment où je commençais Archives, et je voulais lui demander un petit volume d'archives sur les embastillés. Et dans les premiers volumes d'archives, dans la liste des livres à paraître, il y a Foucault, les embastillés. Alors, on était restés en rapport, et donc, un an après, je suis entré chez Gallimard, c'était réglé. Il était très content d'inaugurer une nouvelle collection, et il terminait, je vous dis, il avait terminé un peu les mots et les choses. Voilà.
Et Caillois. Caillois avait aussi une place. Caillois, il y a du Mézil.
Oui, mais Caillois, c'est un homme très étrange, Caillois. Très opaque, très, très séduisant, et à la fois très facile et très difficile d'accès. Il faisait Diogène avec Jean d'Ormesson. Et il était censé s'occuper de la littérature, il s'occupait de la littérature d'Amérique latine, puisqu'il avait ramené après la guerre tous les auteurs d'Amérique latine pour faire cette collection qui s'appelait La Croix du Sud. Alors, non, je dirais que les conversations avec lui étaient riches, agréables, intéressantes, mais que moi, je m'étais, à l'époque où je l'ai connu, il était plus littéraire et plus presque poétique que sociologique encore. C'était, la sociologie, c'était un petit peu son...
Plus loin.
C'était aussi le moment de sa grande querelle avec Lévi-Strauss. La polémique dans les temps modernes entre Lévi-Strauss et Kaiowa, ça doit dater de 65. Il faudrait vérifier, mais c'est facile à vérifier. Et ils étaient très mal ensemble, je me souviens, Lévi-Strauss et Kaiowa. Et Kaiowa parlait beaucoup plus de littérature, ou du moins avec moi, et des pierres. Oui. C'était la grande époque où il écrivait sur les pierres. Je me souviens qu'il m'a emmené dans ce petit magasin de pierres qui est rue Jacob, là. Et effectivement, je lui dirais, les conversations étaient tout à fait. Je crois qu'il approuvait assez nettement ce que je faisais sans me le commenter ardemment. D'ailleurs, dans la maison, personne ne le commentait. Il n'y avait que Queneau, qui ne m'a parlé que d'un seul livre que j'ai publié, et qui était L'art de la mémoire de Franz Sieyès. Quand j'ai publié ce livre, là, il m'a dit qu'est-ce que c'est. D'abord, il ne connaissait pas Franz Sieyès, et il m'a dit c'est très très intéressant, vraiment bravo. Quoi. Il m'a jamais parlé de Foucault. Non, j'ai eu l'impression de faire un travail un petit peu isolé, pour tout dire, un peu solitaire. J'allais dire, puisque anecdotiquement, je peux dire que quelques années après, puisque donc en 68. Claude Gallimard m'a demandé à entrer au comité de lecture qui, à l'époque, représentait que j'avais eu l'impression que j'allais entendre parler de livres qui ne m'intéressaient pas tellement. Et que là aussi, j'ai fait plutôt des manières, tout en sentant qu'il fallait finir par dire oui, parce que ça. Mais que assez peu après, il m'avait dit écoutez, les livres dont vous parlez, ça doit embêter tout le monde, faites-moi des rapports directs. Et puis, il n'en parlait pas au comité de lecture. Donc, c'était tout dire. Et d'ailleurs, je crois me souvenir que beaucoup plus tard, un peu en riant, il m'avait confessé qu'il n'avait jamais ouvert un livre que j'avais publié. Donc, j'étais un petit peu bizarre, si vous voulez, et très vite, une sorte de... pas très représentatif de ce qui restait pendant l'âme de la maison, et très vite j'ai ressenti, effectivement j'en parle en termes de sciences humaines et pas en termes personnels, l'étrangeté qu'il y avait à être à l'extérieur l'éditeur de ces bibliothèques prestigieuses grâce aux auteurs et l'absence d'écho intérieur dans la maison. Ça n'intéressait personne. Enfin, je ne voudrais pas que ce soit mon dernier mot.
Non.
Mais... Donc, oubliez-le. Et puis, ça a changé. Hein.
Oui.
Je dirais que, d'abord, ça a changé progressivement et que ça a tout changé avec le changement de... Et qu'Antoine Gallimard porte, au contraire, la revue Le Débat, qui est censée... Il la porte très largement et qu'il est extrêmement... Enfin, ça va de soi, heureux du développement de ce secteur qui a beaucoup nourri à son tour les collections de poche et qui, il vaut mieux terminer pour ce, comme ça, était censé ne donner que du prestige et ont donné beaucoup d'argent.
Bon, on va vous remercier.